France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 12 juin. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la fin de la prise d'otages au centre de détention de Condé-sur-Sarthe. Les deux surveillants ont été libérés sains et saufs un peu après minuit. Le détenu, un récidiviste de la prise d'otages, a été placé en garde à vue. Les syndicats dénoncent un climat d'insécurité. On voit ça en détail après les autres titres, Agnès.
Un deuxième vote de confiance pour Édouard Philippe qui doit présenter cet après-midi aux députés la feuille de route du gouvernement pour les mois à venir, en question notamment la PMA pour toutes les femmes. Le procès d'un ex-cadre d'EDF Ripoux qui aurait touché 1 million d'euros en liquide et en nature. Les larmes de joie du journaliste d'investigation russe Ivan Golunov, libéré hier soir. Les larmes d'impuissance de la gardienne de but thaïlandaise qui a encaissé hier soir 13 buts américains. Et un plus modeste 4-0 pour les hommes de Didier Deschamps.
Les invités de France Inter ce matin.
13-0,
c'est beaucoup. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Une voix, et quelle voix! La femme d'à côté s'attaque à Duras. Elle joue, elle incarne, elle habite Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. Seule en scène à partir de mardi prochain au Théâtre des Bouffes Parisiens. Elle vient nous en parler avant dans le studio d'Inter. L'incandescente Fanny Ardant sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure. 8h20, le député de la France Insoumise de la Somme, François Ruffin, en première ligne sur le référendum contre la privatisation d'ADP et sur différents sujets écologiques. Son analyse également de la crise qui secoue la France insoumise. Vous pouvez intervenir, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
La prise d'otage aura donc duré 5 heures d'angoisse pour deux surveillants du centre ultra sécurisé de Condé-sur-Sarthe, retenus par un multi-récidiviste de la prise d'otage, Francis Dorfer, 35 ans, en prison depuis l'âge de 16 ans, condamné pour viol, violence et assassinat d'un co-détenu. Il a déjà connu une vingtaine d'établissements pénitentiaires et c'est d'ailleurs parce qu'il voulait encore changer de prison qu'il aurait agi ainsi. Récit signé Sandrine Etoua-Handeg.
1h du matin, les trois hélicoptères du raid décolle devant la prison de Condé-sur-Sarthe sous les yeux d'une vingtaine de surveillants. La tension est retombée. Leurs collègues ont été libérés sains et saufs. Alassane Sall, secrétaire local Force Ouvrière.
C'est un soulagement pour nous. Mais néanmoins, il y a 3 mois à peine, on sort d'une grave agression. On se retrouve là encore. C'est comme si ça devient une triste habitude, malheureusement. Mais on n'a pas quand même signé pour se faire attaquer tous les matins.
Vers 19h40, Francis Dorfer distribue les repas accompagné d'un gardien et d'une stagiaire. Sous les menaces, il les enferme dans sa propre cellule. Et le détenu, libérable en 2060, répète qu'il veut être transféré ailleurs. Le procureur d'Alençon, François Coudert.
Lors de sa reddition, il s'est débarrassé d'armes que l'on peut qualifier d'artisanales, notamment une paire de ciseaux, une fourchette ou encore un autre objet en plastique qui peuvent être potentiellement dangereux pour les personnes prises en otage, naturellement.
Ce type d'agression est récurrent, dénoncent les syndicats comme le SNEPAP FSU, Frédéric Eco, le responsable régional.
On attend les déclarations de la ministre, ça va être quoi? Ben, on va mettre les moyens en jeu. Quels moyens? Hier, on va attendre, ça sera la même chose. C'est les mêmes discours, les mêmes agressions partout, mais rien ne change.
Des syndicats prêts à se mobiliser pour être entendus.
Sandrine Etoua-Handeg à Condé-sur-Sarthe pour France Inter.
Il est 7h04, le très attendu discours de l'acte 2 du quinquennat. Agnès est donc cet après-midi à l'Assemblée pour Édouard Philippe.
Il y a l'urgence écologique, il y a les objectifs économiques, il y a la pression sociale. Alors quelles réformes seront privilégiées? Retraite, assurance chômage, révision constitutionnelle, loi sur la bioéthique? Les députés de la majorité s'inquiètent en tout cas, Karine Bécard, d'un nouveau report de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
Tous les nord de la majorité se sont manifestés pour redire que oui, la PMA pour toutes doit être rapidement examinée. C'est le cas de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, de Stanislas Guérini, le patron du parti, et de Gilles Legendre, le chef des députés.
Cette réforme sera votée, je m'y engage solennellement.
Oui, mais quand ? Le député des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche, a bien calculé, il ne voit qu'une seule possibilité.
Je pense que nous avons une fenêtre dans le calendrier parlementaire qui nous permettrait d'examiner ce projet de loi, de révision de loi bioéthique, avec la PMA, en octobre et en novembre.
Le problème, c'est la réforme constitutionnelle que le président Macron pourrait souhaiter privilégier cette année, alors que son Premier ministre, lui, pencherait plutôt pour la loi de bioéthique. Ce qui ne manque pas d'amuser la députée de La République En Marche, Barbara Pompili.
Bah écoutez, le Premier ministre nous dit très régulièrement qu'il est en phase avec le président de la République, donc pas de raison que ce soit différent sur ce point.
Ce qui est certain, c'est que le calendrier parlementaire, surchargé jusqu'à la fin de l'année, ne permettra pas d'étudier les deux. L'exécutif va donc devoir trancher, a priori, ce matin, dans le bureau du président à l'Élysée.
Et discours donc cet après-midi à 15h avant le vote de confiance des députés, l'occasion de faire le compte des soutiens de la majorité au centre et à droite. Les sénateurs qui ont voté hier la loi de santé présentée par Agnès Buzyn, une loi avec un amendement contre l'avis de la ministre, les sénateurs ont voté un dispositif pour que la dernière année d'études en troisième cycle de médecine générale soit une année de pratique en cabinet ou en maison de santé, en priorité en zone rurale. Des sénateurs qui ont aussi adopté hier soir un texte créant une police spéciale du logement pour mieux lutter contre l'habitat insalubre avec des sanctions accrues contre les marchands de sommeil. Le bureau politique Les Républicains hier soir et la décision actée que les candidates et candidats à la présidence du parti devront prendre l'engagement moral de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2022 par souci d'apaisement. Christian Jacob, Guillaume Pelletier et Bruno Retailleau sont sur les rangs. Un véritable pacte de corruption a sévi au sein d'EDF durant plusieurs années et ce sont aujourd'hui 42 prévenus qui comparaissent devant le tribunal de Nanterre, notamment un ancien cadre d'EDF qui menait grand train, Charlotte Piré.
La vie de Christian a longtemps été celle d'un agent EDF responsable des marchés liés aux centrales thermiques. 3 enfants, un pavillon en Seine-et-Marne. Trop banal peut-être. Alors pendant près de 10 ans, il s'est façonné une autre vie à coups de mallettes remplies de billets venus du Luxembourg. Plus de 300 000 euros ont ainsi été retrouvés dans un coffre à son domicile. Voiture haut de gamme, cave à vin et grand cru, table aquarium, jukebox, camping-car. Autant de cadeaux que Christian se faisait offrir par des prestataires d'EDF jusqu'aux travaux de son domicile ou aux études d'ingénieur de son fils cadet. À quelques mois de la retraite, l'agent venait même de réclamer 100 000 euros en liquide. En échange, celui qu'on surnommait le poisson rouge favorisait certaines entreprises dans l'obtention de marchés avec EDF, en leur fournissant des informations sur leurs concurrents, en aidant à la rédaction des appels d'offres ou au renouvellement de leurs contrats. 9 entreprises au total ont bénéficié des services de l'agent corrompu, jusqu'à ce que le nouveau patron de l'une d'entre elles dénonce le stratagème. Un énième rendez-vous est alors organisé, déjeuner au restaurant, liasse de billets, sauf que cette fois-ci, le porteur de valise était un agent infiltré de la police.
Et le procès doit durer un mois.
Il est 7h08, premier recul du gouvernement de Hong Kong. Agnès, après une nouvelle journée de mobilisation.
Les autorités viennent en effet de décider de reporter l'examen du projet de loi qui doit permettre les extraditions vers la Chine alors que des dizaines de milliers de personnes sont de nouveau dans les rues de Hong Kong. Correspondance dans le journal de 7h30. La joie hier soir du journaliste russe Ivan Golunov, libéré contre toute attente, reporter d'investigation enquêtant notamment sur des cas de corruption. Il avait été arrêté jeudi dernier pour trafic de drogue, ce qui avait provoqué l'indignation et la mobilisation de nombreux moscovites. Coup de théâtre donc hier soir, toutes les charges ont été levées. Ivan Golunov est sorti libre du tribunal. Claude Brouillot, le correspondant de France Inter en Russie, était là.
Le visage marqué par la fatigue, Ivan Golunov se rapproche avec peine des barreaux de cette cage depuis laquelle il comparaît pour la dernière fois. Dès les premières marques de soutien de ses collègues journalistes russes des médias indépendants, Ivan Golunov ne parvient pas à contenir son émotion. Il cache son visage dans ses mains, puis finit par prononcer quelques mots.
C'est compliqué. C'est comme au cinéma. J'ai cru que j'allais voir mes propres obsèques en prison. Merci beaucoup à tous.
Quelque temps plus tard, Ivan Golunov, qui a pu regagner son domicile, se présente à peine rétabli devant une foule de journalistes toujours plus nombreux.
L'action pénale contre moi est terminée. J'espère que l'enquête va se poursuivre. J'espère que personne ne se retrouvera jamais dans cette situation. Merci énormément pour votre soutien. Ça va plus ou moins bien. Je dois me retrouver. J'ai besoin de travailler beaucoup pour mériter votre confiance.
Sa démarche et ses mots simples sont pour beaucoup ceux d'un héros malgré lui qui ne rêve que d'une chose, continuer à éclairer sans idées préconçues les petits et les grands problèmes de son pays, conscient déjà qu'il n'aura de toute façon pas droit à l'erreur. Moscou, Claude Briot, France Inter.
Retour en France ou aller au boulot à vélo pourra rapporter un peu plus, jusqu'à 400 euros maximum par an, selon le forfait mobilité durable voté hier soir par les députés. Une bonne nouvelle pour l'application française GéoVélo, le Waze du vélo, appli basée à Tours, lancée il y a 6 ans, et qui espère, Rémi Brancato, profiter donc de ces nouveautés de la loi sur les mobilités.
100 000 cyclistes utilisent déjà GéoVélo. L'application leur propose des trajets sécurisés qui favorisent les pistes cyclables. En échange, ils signalent les dangers. L'outil fonctionne depuis 6 ans. Et Gaël Sauvanet, cofondateur, veut maintenant le mettre à disposition des entreprises.
On a besoin d'outils pour arriver à suivre le nombre de trajets effectués par ses salariés à vélo.
Avec la loi LOM, les entreprises pourront verser jusqu'à 400 euros aux salariés qui viennent à vélo. Et l'application va les aider à faire les comptes. Trois grands groupes l'attestent déjà.
Avec notre plateforme, l'entreprise elle va avoir un suivi de combien de kilomètres effectués mois par mois. Elle va pouvoir aussi créer des animations pour favoriser les trajets à vélo.
Une communauté de cyclistes, c'est ce qu'a créé la société SKF qui fabrique des roulements. 3000 salariés. Flavie Ducasse est directrice de la communication.
On leur a lancé le challenge de parcourir de manière collective d'ici la fin du mois d'octobre 40 000 kilomètres à vélo. C'est le tour du monde. En utilisant cette application, ils vont voir que pour aller au travail, tiens, il y a des pistes cyclables, mais finalement, pour aller chez ma grand-mère, je peux peut-être y aller à vélo. Et l'idée, c'est de créer un effet boule de neige et d'emmener un peu tout le monde là-dedans.
Selon GéoVélo, beaucoup d'entreprises sont intéressées par l'application, mais le projet de loi LOM n'est pas contraignant. Le versement du forfait mobilité durable resterait facultatif.
Ils peuvent partir en vacances l'esprit tranquille. Les Bleus se sont imposés 4-0 hier soir face à une, il est vrai, assez faible équipe d'Andorre et ils sont en tête de leur groupe des éliminatoires de l'Euro 2020. Les Bleus ES jouent ce soir leur deuxième match de la Coupe du Monde féminine de foot. Ce sera face à la Norvège à Nice à partir de 21h. Et dans cette Coupe du Monde, le carton du jour revient aux Américaines, donc 13-0 hier soir face aux Thaïlandaises. Les Américaines, championnes du monde en titre, ont tout simplement battu le record de buts de l'histoire. Guillaume Batin.
Un but toutes les 7 minutes. Voilà le rythme d'enfer imprimé hier soir par les joueuses américaines à la modeste équipe thaïlandaise. La meilleure joueuse du match, l'attaquante Alex Morgan, auteur d'un quintuplé.
Je suis au mieux de ma forme et l'équipe a soif de buts. Ils ont tous de l'importance. Et ce premier match permet aux 24 équipes de montrer aux autres leur niveau. Quant aux Thaïlandaises, je les ai réconfortées. Je leur ai dit que leur rêve de disputer la Coupe du Monde continue et qu'il y a encore deux matchs.
L'arbitre a passé son temps à siffler des buts pendant la rencontre, et notamment le 9e de la capitaine américaine Morgan Rapinoe.
Oh, je pense c'est fou. Je pense c'est bonne performance pour nous.
On était là pour s'amuser, prendre du plaisir ensemble. Et la compétition a très bien démarré.
Si les Françaises, qui pourraient retrouver les États-Unis en quart de finale, doutaient encore de la puissance des championnes du monde en titre, eh bien les voilà fixées. À Reims, Guillaume Batin, France Inter.
Effectivement, petite pression supplémentaire pour les Françaises ce soir qui jouent contre la Norvège.
Merci Agnès Soubiran.